Ouais, on va peut-être un petit peu réexpliquer le Liban, comment ça fonctionne au niveau politique. Le Liban, il a son indépendance depuis 1943. Avant, c'était un pays qui était sous mandat français. D'ailleurs, la France a plutôt participé à son indépendance. C'est même elle qui avait fixé ses frontières en 1924, si je dis pas de bêtises. C'est un pays qui a évidemment, tout le monde se souvient, été parcouru par 15 ans de guerre, 75-90. On dit qu'il y a eu à peu près 140 000 morts pendant cette période. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact. En tout cas, c'est celui qu'on trouve souvent à la presse. Malgré tout, ça reste un pays qui a su à chaque fois plus ou moins rebondir, même si ces 15 ans a quand même tout dévasté. Et puis il y a évidemment ce dernier conflit en 2006 avec Israël, puisque le Liban a des frontières avec Israël et la Syrie, deux pays qui lui en ont quand même fait beaucoup voir, hein, puisque le Liban a aussi ses pro-syriens et ses anti-syriens, comme elle a ses pro-américains et ses anti-américains. Donc c'est un pays qui est divisé politiquement, mais comme d'autres, mais qui est aussi divisé religieusement. Donc c'est sur les accords de Taif en 89 qu'est en majorité construit la constitution parlementaire du Liban. C'est à peu près 4 millions d'habitants. Alors il n'y a pas eu de recensement depuis le mandat français, donc c'est pour vous dire que tout ça s'est fait un petit peu à la volée pour ces dernières élections de 2009. Donc c'est pas tout à fait récent, ce qui d'ailleurs entraîne aussi des conflits au sein politique, puisque cette constitution, elle va répartir le pouvoir selon les confessions. Alors donc il faut que le président il soit maronite, donc un chrétien. Il faut que, si je dis pas de bêtises, le premier ministre soit musulman sunnite et que le président du parlement soit chiite, de l'Assemblée nationale, pardon, soit chiite. Voilà. Donc vous voyez déjà, il y a ce partage qui a été fait, qui commence malgré tout à dater, puisque sous le mandat français, il y avait beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Ça a commencé un petit peu à s'égaliser, et puis maintenant, des groupes comme le Hezbollah, des partis politiques comme le Hezbollah, font remarquer qu'il y a plus de musulmans que de chrétiens au Liban, et qu'il serait peut-être bien de changer un petit peu cette répartition des pouvoirs au sein de la classe politique. Alors, il y a le Hezbollah, évidemment, vous connaissez tous, hein, le parti de Dieu, le parti d'Hassan Nasrallah, très proche de l'Iran, évidemment.
Que les Occidentaux voient plus comme des terroristes comme un parti politique. Or, depuis quelques années, ils se présentent aux élections, ils ont vraiment une face politique importante. C'est pas du tout des gens qui vont mettre des bombes dans des autobus.
Alors, vous avez quoi en face? Vous avez la famille Hariri. Saad Hariri essaye de aujourd'hui se sortir le pétrin de leur victoire du groupe de l'alliance du 14 mars, puisqu'il y avait deux alliances, le 8 mars et le 14 mars. Le 8 mars c'était le Hezbollah, le Hamal, hein, ces groupes plus j'oublie le général Aoun qui pourtant chrétien a changé de bord pour ces élections, ce qui a pas trop réussi au Hezbollah finalement, puisque dans les territoires où ils pensaient que le général Aoun pouvait gagné, ben ils ont perdu. Donc c'est plutôt un échec. Alors les Hariri, eux, c'est le courant du futur, c'est le parti qu'ils ont donc reconstruit, dans lequel un certain nombre de gens sont venus se grouper. Il y a aussi Walid Jounblatt, hein, le parti socialiste progressiste, qui était aussi cet été beaucoup reçu par Hariri. Enfin, vous voyez, c'est un espèce de jeu politique permanent entre des familles, hein, aussi des clans qui sont là quand même depuis longtemps. Il y a eu le PC pendant très longtemps au Liban, qui a été comme beaucoup de pays arabes très très fort, et qui, avec ses intellectuels, avec ses militants, avait réussi quand même à créer quelque chose de réel au Liban. Alors maintenant, ils sont pour une scission, regroupés dans le mouvement de la gauche démocratique. Et puis, vous en avez d'autres, hein, je vous les dis pas tous, mais c'est vrai que ça fait du coup beaucoup de communautés, une vingtaine, hein, de communautés religieuses, qui se partagent aussi le Liban, le territoire quelque part, dans leur présence. Par exemple, dans Beyrouth Sud, vous avez le Hezbollah et le Hamal, qui est très présent dans le sud du Liban, à Sour, qu'on appelle aussi Tyr, mais à Saïda, qui est à quelques kilomètres, est une ville sunnite. Vous voyez, donc, vous allez à Baalbek, et de l'autre côté, vous avez une ville tenue par le Hezbollah, qui a gagné les élections. Hein. Il s'agit pas de les tenir avec les armes, même s'ils en ont malheureusement beaucoup. Donc, vous avez toutes ces constructions qui se font autour de toutes ces communautés. Alors, je vais pas parler des Druzes, hein. Il y a les Druzes, les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes, qui sont les plus nombreux, pardon. Donc voilà, ça, les Arméniens, vous avez toutes ces communautés qui cohabitent pas vraiment. Vous avez, par exemple, très fortement la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, qui était marquée chacune par des communautés chrétiennes, sunnites et chiites. Quand on rajoute à ça, en plus, la présence de la Syrie pendant toutes ces années assez difficiles, c'est vrai que bon, on sent encore aujourd'hui dans la politique du pays cette présence de la Syrie, d'Israël et des États-Unis. Alors, on avait un petit peu aussi souhaité vous présenter cette interview de Georges sur un côté plus personnel, puisqu'il parle pas de ses opinions politiques en tant qu'anarchiste. On voulait un petit peu vous faire comprendre pourquoi, dans la deuxième partie, il a des analyses qui vont parfois vous choquer, parce que c'est vrai qu'il va vous parler du Hezbollah, il va vous parler d'autres groupes que vous avez peut-être lu dans la presse que c'était des gens pas bien, en disant qu'ils peuvent se reconnaître dans certaines de leurs pratiques, alors pas dans toutes, hein, attention, on va pas se tromper non plus. Mais en tout cas, on a, je pense, quelqu'un qui analyse assez clairement ce qui se passe dans son pays, qui connaît aussi bien la France, donc du coup, il a aussi la méthode pour nous rapporter et nous raconter tout ça.
Voilà, donc je m'appelle Georges Saad, je vis au Liban, je suis enseignant et j'ai épousé ces idées depuis très longtemps quand je suis allé en France où j'ai fait ma troisième et quatrième année de droit à Lyon, à l'université Lyon 3. Et là, j'ai connu des gens qui étaient membres dans la fédération anarchiste, puis d'autres gens qui étaient anarchistes, mais qui n'étaient pas dans des organisations nécessairement. Et ça a fait tilt chez moi, comme on dit. Moi, je suis issu du communisme stalinien, si vous voulez. J'étais membre dans une petite organisation qui s'appelait l'Union des communistes libanais, dont le dirigeant, si vous voulez, était Nakhil Motran, qui était une personnalité très importante au Liban, communiste. Au Liban, ce qui a fait tilt, c'est cette conciliation entre le bakouninisme, si vous voulez, et le marxisme. Et au Liban, l'anarchisme était quelque chose de pas connu, pas bien. Vous savez, le stalinisme avait diffusé l'idée que tout ce qui est anarchiste, c'était contre la révolution, contre les bolcheviks, etc. Et moi, je vivais un peu dans cette ambiance où, quand on disait « Favodawiga », c'est quelque chose qu'il fallait casser, quoi. Et, alors, ce contact avec ces gens m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose qui se trouve ailleurs, donc, comme j'ai dit, là, sur cette ce désir de liberté qui se trouve chez les anarchistes et qui sont de mes tendances évidemment. Bref, j'ai commencé à donc approfondir des lectures dans ce sens. Puis après, je suis venu au Liban et j'enseigne à la faculté depuis 17 ans par là. Mais bon, je continue à avoir ces idées. Puis on continue aussi à bouger un peu au Liban au niveau un peu intellectuel, c'est vrai, mais ça existe quand même, je veux dire, le communisme libertaire, même chez d'autres gens.
Tu étais à Lyon dans le milieu des années 70. Quel souvenir tu en as du milieu militant, alternatif? Est-ce que tu peux un peu nous raconter?
En France, j'ai connu des professeurs de droit, qui étaient en droit, je veux dire, qui étaient de gauche. Je cite, d'ailleurs, il vit à Lyon, Philippe Dujardin, par exemple, c'était mon professeur. Et puis, avec d'autres professeurs qui ont fait ce qu'on appelle la collection de critiques du droit. C'est des gens de gauche, marxistes en général, mais aussi des libertaires, etc., qui ont fait des démarches, chacun dans sa discipline, mais pour démonter le droit, pour le rendre plus humain, etc. La collection, ça s'appelle la collection critique du droit. Il y avait Michel Miaille, Jean-Jacques Lézal, Philippe Dujardin, et puis Jacques Michel. Rachel, etc. Et ces professeurs-là ont beaucoup influencé une partie de Libanais de gauche qui était à Lyon. Et je veux dire que parallèlement aux anarchistes d'Hétéro et de la Croix-Rousse qui nous influençaient, il y avait aussi à l'université une partie de professeurs qui étaient très proches de nous, qui aidaient les étudiants. Et vraiment, on sentait pas du tout un décalage entre un professeur et un étudiant. Et ça, on ne peut jamais l'oublier. C'est vrai que donc des gens humanistes et en même temps très forts intellectuellement. Et pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Voir quelqu'un de très connu au niveau intellectuel par ses livres, par ses productions, et qui soit aussi modeste, qui accueille les étudiants chez lui, etc. Et ça aussi, c'est un souvenir à mentionner, à mon avis.
Alors, moi, si vous voulez, lorsque j'ai un peu épousé les idées de gauche, c'était aussi en rapport avec à des professeurs que j'ai connus au Liban, à un milieu de gens très chouettes, intellectuels, de gauche. Et j'ai retrouvé un peu la même chose, mais je dirais même avec un peu plus de force, peut-être, en France. Et lorsque, à Lyon, j'ai connu l'histoire des Canuts, les révoltes qui ont eu lieu, la chanson des Canuts qu'on chantait avec ce groupe, etc. Et puis, il faut le dire, et ça, à mon avis, tous les Libanais ne le savent pas. En France, il y a une frange, il y a une partie de la population française qui est très humaniste, qui est très ouverte aux étrangers, et surtout dans ces milieux de gauche. Et ils sont, je veux dire, bon, je ne veux pas lancer des fleurs, mais vraiment des gens intègres, des gens très honnêtes, et qui adoptent ces idées, mais de manière vraiment véridique. Et ça, je ne peux jamais oublier, moi, donc ces contacts que j'ai eus avec ces gens, rue Burdeau par exemple, et où c'est des choses qui restent à mon avis, et d'ailleurs à chaque fois j'apprends que les mêmes associations restent, continuent à lutter actuellement, et à mon avis je peux dire que ça fait partie de moi, et je souhaite moi que tous les étudiants libanais quand ils vont là-bas, qu'ils contactent ces milieux pour un peu aller dans les choses profondes et ne pas aller seulement dans les champs, comme on dit, c'est-à-dire les Champs-Élysées.
On sait que l'internationalisme, c'est quelque chose de très fort dans les courants libertaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rapports à l'international ? Quel contact vous avez ?
Alors justement, le livre de Daniel Guérin qu'on a pu traduire, on n'aurait jamais pu le faire sans une aide de solidarité internationale. Les anarchistes suisses qui ont donc financé, il y a les Irlandais, il y a les Espagnols de la CNT, les Français, les Italiens, etc. Donc ces liens internationalistes entre les anarchistes, à mon avis, ils sont très importants. Et la pensée libertaire ne peut pas progresser sans l'internationalisme. Parce qu'on est peu nombreux dans tous les pays, donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait une solidarité internationale. Et nous, bon, j'avais oublié de dire qu'actuellement, on a un projet de traduire aussi un livre qui a un choix de plusieurs articles théoriques et pratiques sur l'anarchisme, sur la pensée libertaire, dans le monde, en France, en Espagne. Donc c'est des articles choisis. Et là aussi, un projet comme ça ne peut jamais avoir lieu sans l'aide internationale. Il y a des gens qui nous ont déjà aidés, une organisation qui s'appelle Ex Minus de la Hollande, donc qui ont donné un peu, puis là on continue, donc c'est un projet qui est en train de se faire actuellement, et on espère que la solidarité internationale va aider ici le Liban pour que ce projet aboutisse.
Alors justement, comment vous faites passer ces idées, vous essayez de faire passer ces idées libertaires ici au Liban ? Est-ce que vous éditez des livres, des journaux, vous avez un site internet ? Expliquez-nous comment on peut travailler sur ces idées ici.
Alors moi, je veux pas prétendre d'être le seul communiste libertaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai connu d'autres gens qui sont aussi communistes libertaires, mais à mon avis, il n'y a pas encore une organisation, c'est-à-dire des gens organisés autour de ces idées. Nous, on a essayé, de manière très modeste, de fonder un petit groupe, un petit réseau, si on peut dire, qu'on a appelé Al-Badil Al-Shuyu'i Al-Taharudi, Alternative Communiste Libertaire, où donc on a un site internet. On sort de temps en temps des petites brochures. Et puis on a surtout fait un travail de traduction, donc un peu intellectuel aussi, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On a traduit par exemple l'anarchisme de Daniel Guérin en arabe. Et on passe au niveau information, on travaille pas mal, donc on est on diffuse ses idées là où on peut, dans les meetings, dans les réunions, tout ça. Et puis de temps en temps aussi à travers des articles qu'on peut passer dans des revues. Et en même temps, on est en contact toujours permanent avec des gens de France, mais aussi d'autres pays. Peut-être du fait qu'on voyage pas mal aussi. Enfin, personnellement, je vais 2-3 fois en France. J'ai des liens très importants avec ce pays que je considère comme mon deuxième pays, parce que j'y ai passé une quinzaine d'années plus. Alors, on a des contacts avec notamment Alternatives Libertaires, comme je l'ai dit, avec la CNT, donc les copains des vignoles, comme on dit, avec aussi la CNT AUT, donc les petits groupes, donc qui sont un peu en contradiction avec qui nous envoient aussi sur leur site pas mal d'articles, les vignoles aussi qui nous envoient les temps modernes tous les deux mois, je crois. Donc on a des liens avec toujours avec ses copains, ses camarades, et puis on participe de temps en temps à des congrès, à des conférences, à des stages d'été aussi de temps en temps avec ses camarades.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut être athée au Liban alors que le pays est constitué autour et sur les communautés religieuses au niveau politique et social ?
Alors, paradoxalement, c'est un pays où il y a beaucoup de communautés religieuses, où on ne peut se marier que religieusement, où tout est fait selon les confessions, même au niveau des emplois, etc. Mais donc, paradoxalement, on peut être athée. Et ça, c'est vraiment... Là, il faut reconnaître que le Liban, avec cet héritage de libéralisme qu'il a, de tradition, de liberté, si vous voulez, dont l'origine aussi est une certaine imitation de la France, peut-être, mais bon, c'est une bonne chose, je veux dire. Au Liban, on peut être athée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le problème qu'on peut peut-être vivre dans les autres pays, dans les autres pays arabes. Maintenant, de là à dire qu'en tant qu'athée, on va pouvoir donc accrocher n'importe quelle fonction, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais au niveau académique, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'écriture, on peut écrire. Bon, même si, entre parenthèses, on ne peut pas aller très loin. C'est-à-dire, lorsque il y a un problème au niveau des photos du prophète, il est difficile de faire un article par un athée qui dit, mais bon, ça suffit. Donc, on essaie de ne pas le faire. Mais sinon, on peut faire un article sur la laïcité totale au Liban, sur l'athéisme, sur le fait que des problèmes au niveau du Dieu, il y a des livres, etc. Non, il y a une liberté par rapport à cela au Liban, heureusement.
La culture française a beaucoup été présente au Liban par la présence de la France. Aujourd'hui, on en est où avec cette culture française ici ?
Alors, actuellement, je pense que l'anglophonie, comme on dit, prend de plus en plus le dessus. Mais je pense que, en même temps, je pense que au Liban, les Français essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder la francophonie au Liban, et à mon avis, ils ont réussi. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, travaille beaucoup, vraiment font beaucoup d'efforts dans ce sens, et à mon avis, il n'y a pas de crainte actuellement sur la francophonie au Liban. Mettons peut-être une petite chose à dire de la part de quelqu'un de gauche, si vous voulez, par rapport à cela, qui est la suivante. Au Liban, il y a deux choses. Il y a les Libanais. J'allais éviter le mot droite, parce que maintenant, moi, je ne crois plus vraiment à la division gauche-droite. Mais les Libanais bourgeois, si vous voulez, les Libanais pro-capitalistes, les Libanais pro-libéralisme un peu sauvage. Il y a une frange de Libanais, comme ça, qui sont francophones. Il y a une autre frange de Libanais qui sont aussi francophones que les autres. Ce qui est parfois malheureux à constater, c'est que la France officielle, la francophonie officielle, s'ouvre plus à la frange qui est, à mon avis, c'est une frange assez intéressée. C'est-à-dire, elles sont pro-francophonie, mais ils prennent de la France que là, les choses, je veux dire, bourgeoises, dans le terme un peu de gauche, si vous voulez, que le luxe, que... voilà, donc c'est plutôt les Libanais des Champs-Élysées. Et à mon avis, la France, pour moi, doit quand même à l'étranger, c'est-à-dire traiter avec des gens qui serait en rapport avec les valeurs profondes de la France. Parce que ces valeurs existent, c'est-à-dire, bon, même si je sais que les canuts ne croient pas du tout à cela, mais pour nous de loin, pour nous c'est important de voir qu'il y a des valeurs au niveau de la démocratie, même au moins formelle, la démocratie, la justice sociale, même le minimum. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on va voir des gens qui sont vraiment des gens capitalistes, qui sont exploiteurs, qui ont 5-6 en caisse chez eux, et qui sont très amis avec la France officielle au Liban. Vous voyez, je ne sais pas si je fais passer le... Et à mon avis, non, la France doit travailler comme elle fait en France. En France, même les gens de droite, je veux dire, ils n'acceptent pas de signer en caisse chez quelqu'un, à mon avis. Pourquoi ils acceptent ça ici avec des Libanais? Et voilà, donc ça c'est un message aussi à faire, mais je ne suis pas du tout contre la francophonie et même le renforcement de la francophonie, contrairement à certains copains libertaires qui, pour qui la francophonie serait, qu'on le veuille ou pas, un certain nouveau colonialisme. Moi, je suis revenu un peu sur ces idées. Je dis que non, je l'envisage à travers des relations culturelles, à travers, et pourquoi pas, arabiser aussi la France, c'est-à-dire au niveau de langue arabe. Donc, essayer de... Mais moi, me couper de la France, c'est un peu me tuer aussi. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, la francophonie n'est pas seulement symbole de nouveau colonialisme, c'est une ouverture culturelle. Moi, tout l'humanisme que j'ai, je l'ai pris à Balzac, à Flaubert, on ne peut pas dire que toute la France, c'est François Mauriac ou Le Pen, etc.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Oui, on va juste préciser que dans l'interview... Georges fait référence à un montant en livres libanaises. 1000 livres libanaises, ça fait 50 centimes d'euros. Le Canu Info. Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Comment vois-tu la situation en tant qu'anarchiste au Liban et au Moyen-Orient ?
Alors bon, là aussi, c'est vraiment vaste comme question, mais on peut dire très brièvement que actuellement, les États-Unis ont toujours leur plan. Ça, il n'y a pas, c'est clair. Les États-Unis veulent dominer. Les États-Unis ont un plan là actuellement avec ce qui se passe avec le plan de réconciliation par rapport à la Palestine. On voit bien que les États-Unis ont toujours le projet de dominer dans la région, même s'il y a une petite différence entre Bush et il s'appelle Obama, mais donc au niveau du plan américain, la situation est claire. Maintenant au niveau du Liban, c'est vrai que, à mon avis, tant que le problème palestinien n'est pas résolu, les problèmes vont continuer à exister. Tant que ce problème n'est pas vraiment résolu. Pourquoi ? Parce que dans le sud du Liban, tant qu'il y a ce problème, c'est toujours une raison et pour certains un prétexte pour que le Hezbollah continue à posséder ses armes. D'un côté, c'est vrai, il a tout à fait raison, parce que l'armée libanaise, jusqu'à maintenant, n'est pas capable vraiment de protéger. Mais d'autre part, ça commence à poser un problème par rapport aux Libanais, dans le sens qu'il y a un parti qui est armé et d'autres non. Donc, il y a une situation quelque part inégalitaire, même si ce parti lutte au niveau de la résistance. Mais pour les autres partis qui ont peut-être d'autres points de vue, pourquoi ne pas accepter qu'ils possèdent eux aussi des armes ? Donc, il y a ici un État. Et il y a dans cet État un autre sous-État, qui un État dans l'État, si vous voulez, qui possède des armes. Donc, à mon avis, cette situation ne peut pas durer au Liban. Et je pense qu'actuellement, avec le nouveau gouvernement, on va essayer de trouver une solution par rapport à cela. Bon, évidemment, tout le monde est d'accord maintenant qu'on ne peut pas désarmer le Hezbollah par la force. Et il faudrait une... ils vont trouver finalement une solution, c'est-à-dire soit que le Hezbollah devienne partie, si vous voulez, de l'armée, soit le contraire. Mais bref, on ne peut pas continuer à avoir deux armées, si vous voulez. Bon, ça c'est... brièvement, donc le problème palestinien, ensuite le problème du Hezbollah et ses armes, et au niveau politique actuellement il y a un véritable problème au Liban entre ce qu'on appelle le clan du 14 mars et le 8 mars. Donc le 14 mars qui rassemble tous les gens qui ont lutté pour la souveraineté du Liban, donc le courant du futur du Hariri, une bonne partie des chrétiens sans le général Aoun, et puis de l'autre côté le 8 mars, donc Hezbollah, Amal et certains autres partis. Alors, à mon avis, là aussi très brièvement, les gens maintenant sont lassés de cette division et il faudrait finir avec ça. Parce que pour nous, en tout cas, des gens de gauche, c'est vrai qu'on n'arrive pas à justifier cette division qui n'est pas du tout de gauche-droite, sauf si on prend comme critère la souveraineté du Liban, sa liberté, surtout par rapport à la Syrie, etc. Mais sinon, pour un libertaire, c'est pas du tout, il ne peut pas se trouver dans l'une des deux parties, même si pendant une période, c'est vrai que, en tout cas personnellement, je me sentais plus du côté du 14 mars, rien que pour le fait qu'il y avait la question de d'une certaine liberté au Liban qu'on voulait donc arraché, c'est tout, c'est le seul peut-être facteur commun avec c'est là où tu peux te trouver avec un parti complètement capitaliste. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une lutte par rapport à cela. Donc situation 14-8 mars, ça devient une situation lassante, il faut finir avec ça. Actuellement l'actuel donc le futur premier ministre donc Hariri qui a été chargé de former ce gouvernement, il a des difficultés actuellement pour former ce gouvernement parce que il y a une lutte entre tous ces partis, toutes ces communautés religieuses, et on ne peut pas donner des ministres à tout le monde. Donc ça c'est particulier au Liban. D'une part, cela prouve qu'il y a une certaine liberté politique au Liban, parce qu'il y a justement il y a des problèmes, c'est vrai que c'est un régime qui ne ressemble à aucun dans le monde arabe au niveau autoritarisme. C'est un régime plutôt libéral, donc je veux dire. Mais en même temps, il y aura peut-être un risque de guerre, à mon avis, si ça continue de cette manière. Surtout que beaucoup de pays au Liban ont intérêt, beaucoup de pays étrangers ont intérêt à ce que ça explose au Liban. Déjà, entre sunnites et chiites, ça va pas du tout. De temps en temps, on reparle entre chrétiens et musulmans. Entre chrétiens eux-mêmes aussi, donc les partisans du général Aoun et les autres. C'est un pays qui vit, comme on dit, pour que ça explose très vite, quoi, sur une poudrière, on dit. C'est un pays qui est comme ça. Donc il y a toujours ce risque que ça explose. Donc voilà très rapidement par rapport à comment quelqu'un de gauche, si vous voulez, peut voir un peu la situation. Maintenant, au niveau de la justice sociale, le problème pour nous, c'est que tous ces problèmes politiques, tous ces problèmes de formation de gouvernement, lutte contre Israël, les armes du Hezbollah, etc., escamotent complètement les problèmes sociaux. Et du coup, là ça aussi c'est une question importante, la situation économique. Du coup, les gens passent leur temps à attendre le nouveau gouvernement, alors que le salaire minimum au Liban, c'est que dalle, comme on dit, c'est rien du tout, on ne peut pas vivre avec ça. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de travailleurs étrangers au Liban qui sont exploités à mort, surtout comme le phénomène des domestiques qui est de l'esclavage moderne complètement honteux et qui existe dans ce pays. Mais en même temps, beaucoup de problèmes économiques au niveau des gens. Les gens sont pauvres. Et tous ces problèmes politiques escamotent le problème économique.
Est-ce que tu peux nous parler de ces domestiques asiatiques que l'on croise partout à Beyrouth, et puis aussi de ces travailleurs agricoles qui vivent dans des tentes que l'on voit par exemple dans les plaines de la Beka? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs conditions de vie et de travail ici?
Voilà, c'est ce que je disais que les problèmes politiques au Liban, depuis 75 d'ailleurs, escamotent le problème économique. Et au niveau de la lutte des classes, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens très très pauvres et il y a des gens très très riches. Alors, là tu parles d'un phénomène qui est complètement absurde, c'est le phénomène des domestiques étrangères, donc des Sri-Lankaises, des Indiennes, des Éthiopiennes. On les fait venir ici, on leur confisque le passeport pour 3 ans, ils se font, à mon avis, et moi je suis responsable de ce que je dis, dans beaucoup de cas, pour ne pas dire dans tous, ils se font violer, ils se font battre, mais alors régulièrement, on leur interdit de quitter les maisons, et les Libanais, pourtant des intellectuels, des professeurs, et si j'ai jamais compris, pour eux c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait une domestique qui est enfermée dans une maison. Et parfois, tu as une professeure à l'université qui a sa Sri-Lankaise derrière elle dans la rue. À mon avis, ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a eu un reportage par une journaliste française sur France 2, je crois. Et là, il y a eu beaucoup de critiques de la part du Liban par rapport à ça, comme quoi vous parlez de l'esclavage moderne, etc. Et elle avait tout à fait raison. C'est de l'esclavage moderne. Maintenant, là, vous parlez, je pense, en allant vers Baalbek, vous avez vu des gens qui travaillent dans les champs. C'est des gens qui n'ont pas la nationalité libanaise. On dit chez nous, si vous voulez, une sorte de bédouins, même si c'est un peu péjoratif. Ces gens-là sont exploités, mais on dirait comme au 17e siècle, quoi. On doit leur donner 10 000 livres libanaises par jour. C'est des fillettes de 14 ans, de 16 ans, etc. Et qui bossent 12 heures, je crois, pour ça. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez vu le phénomène des mendiants dans les rues. C'est un peu la même ethnie. Mais aussi, il y a des Libanais aussi. Alors ces gens-là, ils sont là à te mendier des choses, qui viennent vers les bagnoles, vers les voitures, etc. Là aussi, l'État peut tout à fait, à mon avis, en un jour, les prendre tous et les mettre dans des maisons. Et ça se fait d'ailleurs. Il y a des associations qui font. Il y a un boulot qui se fait, je ne dis pas non. Mais je veux dire, tous les jours, on revoit de ces gens. Donc, ces gens-là, en plus, sont exploités par leur père, par leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les attend, il les amène par des minibus, il les amène, il paraît qu'il les loue. Je viens d'apprendre il y a 2-3 jours, et il les loue. C'est quelqu'un qui loue ses gamins à 5 000 libanais par jour, et il les lance là toute la journée, et le soir, il ramasse ce qu'ils ont gagné, mais lui, il aura donné 5 000 livres à leur père. Donc, il y a des responsables, il y a des adultes responsables, c'est pas la responsabilité de ces gens. Ça, c'est horrible, ça, c'est honteux pour le Liban, dans lequel, pour vous, je pense qu'il vous a beaucoup étonné le fait de voir toutes ces voitures grandes, moches, là, les Hammer, je sais pas quoi, des gens qui ont beaucoup de fric, qui s'endettent parfois pour acheter des belles bagnoles, et puis en même temps, il y a de l'exploitation à côté. C'est honteux pour le Liban, et je me demande comment les gens disent que c'est le pays de la civilisation. Bon, même si ailleurs, évidemment, on a de bon côté au Liban, il y a beaucoup de gens intellectuels, c'est un pays qui a beaucoup donné, et je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, ces phénomènes-là, il faut finir avec ça.
Est-ce qu'il y a des syndicats qui arrivent à travailler et à lutter ?
Alors au Liban, c'est connu, c'est le seul pays dans le monde arabe où il y a eu une lutte syndicale très importante dans les années 30, 40, 50, 60, jusqu'à la chute du mur de Berlin encore une fois. D'ailleurs, on a oublié de dire que à cause de la chute de ce mur, c'est là où la gauche a commencé à perdre dans le monde et surtout au Liban. C'est pour ça que actuellement le PC au Liban, par exemple, en plus des problèmes qu'il a internes, il n'existe pratiquement pas vraiment, je veux dire. Et il y a le mouvement de Al-Anqaz qu'on appelle le mouvement de sauvetage, qui essaie de faire quelque chose pour essayer de sauver la situation du PC, et nous on est dedans, on est très proche de ces gens, de ces réformateurs communistes, mais avec des idées très libertaires aussi, très ouvertes, qui essaient de faire carrément autre chose, et nous on essaie d'influencer aussi dans ce milieu. Alors actuellement, c'est tout à fait clair, le syndicalisme au Liban ne fonctionne pas bien. La confédération, elle est complètement inféodée, et d'ailleurs, ça revient au fait qu'on a un texte de loi selon lequel Pour constituer un syndicat, il faut l'autorisation expresse du ministre. Donc les syndicats ne sont pas constitués d'office sur des critères. Et du coup, on a une confédération qui est proche, si vous voulez, des milieux, j'allais dire, qui ne représentent pas les intérêts des Libanais, pour ne pas dire autre chose. Et elle continue à exister, cette confédération. C'est pourquoi il n'y a pas une seule manifestation qui se fait, il n'y a pas une seule lutte qui se fait, il n'y a pas des ouvriers qui peuvent aller dans des bureaux qui ont des avocats, donc dans cette confédération. Et du coup, il y a un vide juridique incroyable. Les ouvriers au Liban, la plupart des entreprises embauchent des ouvriers sans les déclarer. Et ça, c'est connu, l'État le sait. Nous avons 25 inspecteurs du travail sur 2 millions de travailleurs. Donc ce n'est pas possible. Donc c'est une situation vraiment malheureuse par rapport au syndicalisme actuellement.
On a du mal à se faire une idée sur ce qu'est la gauche au Liban. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux?
Alors, au Liban, d'abord, il faut dire que le terme, l'expression gauche ne veut pas du tout dire la même chose qu'en France. La gauche en France, à mon avis, par définition, est plus ou moins claire. Ça se situe par rapport au capitalisme, au libéralisme, aux différents d'autres critères sociaux. Alors que Liban, le fait que c'est un pays qui est composé de 21 communautés religieuses qui se combattent parfois religieusement seulement, là, à mon avis, c'est difficile de parler de gauche. Maintenant, il faut dire qu'au début de la guerre, il y avait un critère qui a prédominé, qui est celui de lutte contre Israël et les autres, donc la droite chrétienne. Ça a marché pour quelque temps comme critère, puis après ça n'a plus marché parce que cette gauche nationale, islamo-nationale soi-disant, il s'est avéré que c'est pas vraiment une gauche non plus, parce que dedans il y avait des tendances complètement religieuses aussi, musulmanes, avec l'ambition de prédominer, comme vous le savez. Donc là il y a eu, au niveau de critères, je parle au niveau de la définition, ça n'a pas marché non plus. Alors actuellement, c'est encore pire parce que actuellement, c'est tout l'échiquier qui a chambardé. Actuellement, on ne peut plus du tout parler de gauche-droite dans le sens qu'on disait avant, durant la guerre. Et maintenant, à mon avis, si vous voulez, dans tous les partis, on peut trouver de la gauche et de la droite. C'est-à-dire, à mon avis, même si c'est un peu... ça peut choquer ce que je veux dire. À mon avis, dans les forces libanaises actuellement, il y a des gens de gauche, c'est-à-dire des gens socialistes, des gens qui tendent vers la laïcité totale, je dirais. Il y a des propositions, donc qu'on peut lire. Et dans l'autre parti aussi, c'est-à-dire dans le clan musulman, si vous voulez, là aussi, on peut trouver des gens de gauche et des gens de droite. C'est-à-dire, tout dépend du critère sur lequel on veut se baser. Si c'est un critère au niveau du socialisme, on va trouver un peu partout de gauche et de droite. Si c'est un critère de lutte contre Israël, actuellement, à mon avis, le seul parti qui serait vraiment de gauche, c'est le Hezbollah, qui vraiment lutte contre Israël, qui a donné beaucoup de martyrs. C'est le parti de résistance par excellence. Il n'y a pas à torturer, il faut le reconnaître. Maintenant, est-ce que dire cela, est-ce que ça veut dire que c'est un parti de gauche? Non, j'ai dit par rapport aux critères de lutte contre Israël, lui. Mais est-ce que c'est un parti de gauche dans le sens occidental? Pas du tout, parce qu'il est porteur d'une idéologie complètement différente et qui pourrait même être complètement à l'opposé de l'extrême droite, comme tu as dit. Donc, à mon avis, les choses doivent être analysées de manière très dialectique. Tout dépend de quand l'on parle, de quels critères les choses bougent, et c'est pour ça que les questions doivent être vraiment très précises, surtout dans ce pays où les choses sont vraiment très compliquées.
Le Hezbollah parle de justice sociale. Le PC a été très fort au Liban, comme dans d'autres pays arabes. Est-ce qu'on parle aujourd'hui encore de lutte de classe au Liban ?
À mon avis, rien n'interdit de dire que le Hezbollah a aussi lutté au niveau de la lutte des classes. Parce que là aussi, il a fait beaucoup de choses en direction des gens pauvres, parce que l'État était, les Libanais étaient complètement absents. C'est pour ça qu'il a gagné beaucoup de monde au niveau de l'hospitalisation des gens, au niveau de l'enseignement, au niveau... Et bon, il était présent alors que l'État était absent. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas socialiste à cet égard. Donc, nous, en tant que communistes, si vous voulez, on est satisfaits par des gens qui bossent dans ce sens. Maintenant, de là à dire que on partage autre chose au niveau d'une fondation d'un régime politique à long terme, ça c'est une autre question, et on peut dire que non, là il y aura évidemment des divergences. Mais en réponse à ta question, effectivement, c'est un parti qui a aussi lutté donc au niveau de la justice sociale, mais évidemment dans une certaine mesure, c'est-à-dire dans les régions où il était implanté. Mais d'autre part, il suffit que le Hezbollah soit un parti qui est implanté dans une confession seulement quelconque, donc le chiisme, il suffit cela pour dire que ce n'est pas un parti dont la justice est vraiment donc un critère universel pour tout le monde. Mais bon, ça c'est autre chose. Il y a un recoupement plus difficile à nuancer.
Le Canu Info de Radio Tonu.
Beyrouth. La nuit s'est déchirée, personne sur l'autoroute, solitaire, foudroyé.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Merde.